Bienvenue à Question d'aujourd'hui, émission qui vous est présentée par l'Office de catéchèse du Québec en collaboration avec Radio-VM et Radio-Galilée. Nous recevons Richard Chartier, directeur de mission des Franciscains, pour une deuxième semaine parce que nous voulons parler, bien sûr, de François d'Assise. Les 800 ans cette année, on va souligner ce jubilé de son décès à François d'Assise. Et c'est une occasion de découvrir ou redécouvrir ou d'approfondir qui est François d'Assise et son impact si important dans la vie des chrétiens, même de non-chrétiens, et aussi dans la vie de l'Église. Et à l'automne 1219, il y a un événement extrêmement important qui va se passer. Richard Chartier, qui est peut-être moins connu, mais qui a eu un impact important dans la vie de François et dans la vie des franciscains, et aussi dans la vie de l'Église. Qu'est-ce qui se passe à l'automne 1219?
Bon, alors on sait qu'à cette époque, évidemment, il y avait beaucoup de croisades. C'était la cinquième croisade. Des armées chrétiennes assiègent Damiette, qui est en Égypte.
Donc, c'est une ville.
C'est une ville, oui, effectivement. Alors, on sait qu'à cette époque, il y a beaucoup de guerres entre les villes. Hein. Il se faisait même des guerres, comme j'ai expliqué la semaine dernière, même en l'intérieur de l'Italie. Hein. François, il a participé comme chevalier à des guerres entre Spolète et Assise. Et là, bien évidemment, c'est la croisade qu'on fait. Et les croisades font en sorte que les armées chrétiennes assiègent donc Damiette. François se rend avec le frère Illuminé, et c'est son nom, Illuminé.
Donc, c'est son frère franciscain.
Son frère franciscain qui s'appelle Illuminé. Ils vont à Damiette parce qu'ils se disent, ben, on va essayer de réconcilier les deux. François part avec cette idée-là. Et il est donc capturé par les soldats du sultan Al-Malik Al-Kamil. Et malgré tout, ce qui se passe, le fait que lui soit capturé, ben on se dit, il va le tuer, ou je ne sais pas trop, hein, ça aurait pu arriver. Mais là, finalement, le sultan est intéressé à rencontrer François. On ne sait pas trop exactement les conversations exactes qu'il y a eues avec le sultan, mais ils se rendent compte, tous les deux, François et le sultan, que finalement, ils sont amoureux de Dieu. Hein? Ils sont tous les deux croyants. Donc, il y en a un, comme François dit, « Ah, ben le sultan, il prie 5 fois par jour. » Et le sultan dit, « Ben François, cet homme prie aussi, prie Dieu. » Alors, il se rend compte que finalement, ils sont tous les deux croyants, qui croient en Dieu. Ils se disent, « Ben dans le fond, pourquoi qu'on se bat? On ne sait pas. » Ben, bon, bref, et l'idée de cette rencontre-là, il faut bien le dire, au tout début, François y allait comme un martyr aussi, parce qu'à l'époque, c'était bien important, cette idée de martyr, de se sacrifier pour l'Église.
Donner sa vie.
Mais finalement, il ne deviendra pas un martyr, puisqu'il retourne par la suite et raconte ce qui s'est passé avec le sultan. Et cette rencontre-là va permettre, en fin de compte, aux franciscains de faire une réflexion en se disant, ben, coudonc, c'est pas parce qu'ils sont musulmans qu'ils sont pas croyants en Dieu. Et il va donc se dégager de cette rencontre-là l'idée de pouvoir avoir des conversations, des partages, ce qu'on appelle le dialogue interreligieux. C'est un peu de là qu'est née aussi cette idée de dire, ben, si on se parlait entre nous, entre religions, ben, ça nous aiderait à mieux se comprendre puis à mieux se connaître, hein, évidemment. Alors, l'idée de cette rencontre du sultan, dans le fond, où François voulait se faire martyr en disant, et en même temps aussi, probablement dans son idée de vouloir faire en sorte que, ben, que d'être un espèce de réconciliateur, ou je sais pas trop, ben, finalement, ça s'est bien déroulé. Et ça a fait en sorte aussi que ça a donné cet élan de dialogue entre les deux religions.
Et pour les franciscains, c'est devenu comme une manière aussi de s'inculturer, d'aller à la rencontre de d'autres peuples dans cet esprit de François, si je comprends.
Exactement, oui, c'est ça. Donc, les franciscains se sont toujours inspirés de cette rencontre-là pour, quand ils vont en mission, de dire, ben, ça veut dire qu'il faut aussi respecter les cultures dans lesquelles on va, les cultures et les religions. Les gens qui sont croyants en Dieu ne sont pas tous des catholiques. mais ils croient en Dieu. Alors, c'est ça, ça a permis cette ouverture-là. Et ça a permis aussi que les missions, en fin de compte, ont fait en sorte que il y a eu ce respect des cultures aussi, hein, ce qu'on appelait l'inculturation, c'est-à-dire cette idée d'aller évangéliser dans des cultures qui sont pas nécessairement croyants en Dieu catholique, mais qui a permis au moins aux missionnaires de dire, ben oui, on va faire attention, on va parler de Jésus, mais tout en respectant la culture des gens dans lesquels on va aller parler de notre cher Jésus-Christ.
Richard Chartier, justement, allons du côté des missions des franciscains. Même au temps de François d'Assise, il a envoyé des frères au Maroc et à d'autres endroits, sans doute. Et lui-même, François, a parcouru des kilomètres pour aller, mais justement, témoigner de ce Jésus qui est le Jésus près des pauvres et des petits.
C'est ça, exactement, oui. Ben, il faut dire que ceux qui sont allés au Maroc un petit peu plus tard, là, ils ont été moins chanceux que François. Eux autres, ils ont été tués, malheureusement. Ça a été les premiers martyrs franciscains. Et d'ailleurs, il faut dire, je fais un petit lien, là. Saint-Antoine a rencontré des frères qui venaient il a vu les funérailles de ces frères-là. Et ça l'a beaucoup marqué. Alors, là, je passe sur un
Saint-Antoine
autre histoire.
De Padoue?
Saint-Antoine de Padoue, oui.
Ah oui?
Et c'est ce qui a fait qu'il est rentré chez les franciscains, parce que Saint-Antoine, c'était pas un franciscain au tout début. Il était dans une autre communauté. Alors, quand il a vu ça, il a dit, « Ah, mon Dieu, des hommes qui se sacrifient ainsi pour Dieu, etc. » Ça l'a beaucoup marqué. Et il a voulu rentrer chez les franciscains. Alors, Saint-Antoine de Padoue, ça a été un franciscain parce qu'il a vu effectivement les martyrs du Maroc.
Alors, dans les missions aujourd'hui, les franciscains, il y a certains pays où il y a une présence franciscaine assez importante, en tout cas très symbolique, en Russie, en Terre Sainte, bien sûr, au Soudan, en Libye, au Maroc. Parlez-nous de ce que font les frères dans ces milieux.
Oui, on peut trouver ça curieux, effectivement. Quand je suis allé cet automne, on est allé faire des prédications dans des paroisses, et puis dans le calendrier qu'on vendait pour nos missions, justement, il y a différentes... toutes nos missions sont presque là. En fait, les projets qu'on a appuyés à travers le monde. Puis les gens disaient, « Mon Dieu, il y a donc bien des endroits spéciaux où vous allez, en Ukraine où il y a la guerre. » Le Soudan, il y a de la guerre, hein, là aussi. Et en Russie. Alors, les gens trouvaient ça curieux. Ben, j'ai dit, ben, c'est parce que les frères, l'idée de ça, c'est d'être proche des gens qui sont croyants, en fait, qui sont catholiques, qui sont pratiquants. En Russie, c'est que les frères sont là pour accompagner les catholiques. Évidemment, pas les autres qui vont faire du prosélytisme en Russie, mais ils vont accompagner déjà les gens qui sont catholiques, donc qui ont besoin d'accompagnement, hein, évidemment, avec la pastorale, la catéchèse, etc.
Les sacrements.
Les sacrements, c'est ça. L'idée, c'est ça, d'aller dans des endroits comme ça. En Libye, c'est la même chose. Au Maroc aussi. C'est pas nécessairement d'aller évangéliser tout le peuple, mais d'accompagner les gens qui sont là, les croyants qui sont là. Et aussi, d'aider les plus pauvres. Alors, souvent, dans les pays, évidemment, partout, hein, à travers le monde, il y a des pauvres. Alors, les frères, dans l'esprit de François, c'est d'aller aider les gens qui sont pauvres, qui sont laissés pour compte. Ça peut être des marginaux, ça peut être des gens, tu sais, que souvent, je pense en particulier, même à Hong Kong, on a appuyé un projet pour les personnes atteintes du VIH, par exemple. Et souvent, les mêmes, encore aujourd'hui, il y a des pays où tu es atteint de ce qu'on appelle le sida, là. Ils sont marginalisés, ils sont refusés souvent par la famille, etc. Donc, les frères sont là avec ces personnes qui sont justement rejetées par la société. En Russie, c'est d'être avec, effectivement, les personnes qui sont croyants. Et les frères ont une école, donc c'est de participer à leur éducation, d'être avec eux, de faire en sorte que des jeunes pauvres puissent être éduqués. En Ukraine, c'est la même chose. Bien là, à l'heure actuelle, évidemment, toute leur énergie, c'est d'aider les victimes de la guerre. Comme par exemple, les frères vont être avec les personnes âgées. Il y a des personnes âgées qui ne peuvent même pas sortir de leur maison, même si les bombes tombent à côté, là, parce qu'ils sont handicapés, ils sont dans l'impossibilité physique de se déplacer. Ce que les frères font, c'est qu'ils vont leur porter nourriture, médicaments, etc. Évidemment, réconfort moral. Ça, c'est bien important. Alors, c'est leur travail. Leur travail aussi en Afrique, c'est la même chose. C'est souvent relié à de l'aide humanitaire, hein? Ou l'éducation, à construire des puits, être avec aussi les gens qui sont abandonnés, des enfants orphelins, etc. Donc, c'est toujours être avec des personnes qui ont été rejetées par la société ou abandonnées.
Et c'est là que l'épisode de François avec le lépreux prend tout son sens pour la famille franciscaine.
Exactement,
De
oui.
refaire ce même geste de proximité avec quelqu'un qui est rejeté, qui est marginalisé et qui n'a pas de ressources aussi, qui n'a
Exactement.
pas les moyens, parce qu'il y a des obstacles, de pouvoir vivre décemment.
Exactement, oui. C'est cet esprit d'ailleurs de François, je crois, qui traverse l'époque, je dirais l'histoire des franciscains. Si on regarde l'histoire de cette communauté-là, c'est vraiment, les frères sont toujours en marge avec les marginaux, avec les personnes qui sont à part. Et ça a toujours été ça, puis ça se continue encore aujourd'hui. Donc, nous, notre but, la mission des franciscains, c'est d'appuyer des projets que les frères nous présentent. Parce que c'est pas nous qui disons, hey, tu devrais faire telle chose. C'est les frères qui nous présentent des projets. Et puis, on évalue si on peut faire un appel à dons, ce qu'on appelle, auprès de nos donateurs. On envoie une revue. Les gens, s'ils veulent, peuvent participer à appuyer ce projet-là. Et dans notre revue, il n'y a pas juste aussi la question d'appuyer un projet, mais on essaie aussi de réfléchir sur ce que c'est que la mission, puis aussi en même temps mieux connaître le pays dans lequel on demande des dons, et aussi bon le travail des frères, etc. Donc, ce n'est pas juste une question monétaire, il y a aussi, je pense, une question d'être solidaire avec les frères, mais aussi avec la population. Souvent, les gens se disent, mais au moins, je suis écouté, je suis compris, on peut m'aider, on peut venir à mon aide pour tisser une solidarité. On a besoin de solidarité dans notre monde, je trouve. Et c'est cette solidarité-là, pas juste une question financière, c'est aussi être solidaire avec les personnes, les accompagner, dire, hey, on est là, on vous comprend, on essaie de vous aider. Et on peut s'aider aussi mutuellement parce que ces gens-là peuvent aussi nous apprendre, évidemment. Nous apprennent beaucoup par rapport au temps. Moi, je trouve que ça, c'est une chose que j'apprends beaucoup parce que, que ce soit avec les Africains ou les Latinos, etc., eux, ils prennent beaucoup leur temps. Hein. Et je trouve que dans notre société, on est toujours pressés, nous autres. Et justement, je disais aux gens à un moment donné, je ne sais pas pourquoi qu'on est toujours pressés. Mais je trouve que ces cultures-là, nous apprennent à vivre la vie avec, je dirais, un temps plus smooth, je m'excuse du terme anglais, là. Mais bon, on est capable d'avancer, mais on n'est pas obligé d'être toujours pressé, de se presser, d'être vite, 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 puis ah ouais, puis bon. Mais eux, ils prennent leur temps. Et moi, je trouve que ça, c'est une chose qu'ils m'apprennent beaucoup.
À question d'aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Richard Chartier, directeur de mission des Franciscains. Revenons à François, François d'Assise, qui a laissé des prières, et entre autres celle très connue, Seigneur, fais de moi un instrument de paix. Et en quoi ça teinte la famille franciscaine?
Bien, je pense que la paix, ça a été, je dirais, une valeur tellement importante chez François. Hein. Il y a eu tellement d'histoires qu'on peut raconter sur François. Tu sais, on parle de la réconciliation avec le sultan, mais il y a aussi tout l'aspect, même avec la création, d'être en paix avec la création. Il y a eu des histoires de François qui réconcilie, par exemple, des villageois avec un loup. le loup de Gubbio. Ça aussi, c'est une façon d'établir la réconciliation, la paix. Et je trouve que dans notre société à l'heure actuelle, on aurait besoin de revoir cette histoire de François, parce que je me dis, mon Dieu, qu'on aurait beaucoup à apprendre de cette réconciliation avec la nature, avec l'environnement, au lieu de la détruire, puis de toujours être... Il me semble qu'on n'a pas une relation saine à l'heure actuelle avec la nature, avec l'environnement.
Richard Chartier, pouvez-vous nous rappeler justement brièvement cette histoire du loup
oui.
et de François pour qu'on puisse bien saisir là, cette idée de réconciliation avec la nature?
Oui, c'est qu'il y avait un loup dans le village qui s'appelait Gubbio et le loup, bon, évidemment, faisait peur aux gens et... À un moment donné, bon, François passe par là, les gens lui parlent de ça, puis lui dit, bon, ben, je vais aller parler au frère loup. Alors, il s'en va.
Il l'appelait frère loup.
Il l'appelait frère loup. Alors, il s'en va voir le frère loup, et là, il lui dit, bon, frère loup, ça suffit, il faut que tu aies un autre genre d'attitude. Mais là, François, il dit aux gens, oui, mais c'est parce qu'il a faim, lui, de loup, c'est pour ça qu'il vous attaque, ou il attaque les gens. Alors là, il s'est arrangé pour que, dans le fond, des gens lui donnent à manger. Alors, comme ça, de cette façon-là, il a arrêté d'être violent, on peut dire.
Agressif.
Agressif envers la population. Et la loup lui aurait donné la patte. Bon, il se serait donc réconcilié de cette façon-là. Je ne sais pas si c'est allé jusque-là. Ça fait partie de la légende. Mais disons que le François, l'idée, c'était de dire, ben au lieu d'avoir peur, au lieu de partir sur une violence qui montrait, hein, parce qu'il aurait pu battre le loup, etc., ben c'est de se réconcilier, de trouver un terrain d'entente. Alors, il a trouvé ce terrain d'entente-là, et ça a permis, effectivement, là, ce que l'histoire dit, c'est que les villageois et le loup ont continué, ont poursuivi dans la paix et la joie d'être ensemble. Alors ça, je trouve que c'est une belle histoire parce que ça nous permet de comprendre que la façon dont aujourd'hui on agit avec les animaux, avec la nature, c'est souvent agressif. Et je me dis, ben peut-être qu'il y aurait une autre manière d'apporter notre relation avec la création.
On sait que François écrit ce cantique de Frère Soleil alors qu'il était à la fin de sa vie, aveugle, et on en a parlé la semaine dernière à l'émission. Mais l'impact de François par rapport à l'écologie, par rapport aux chrétiens, elle est immense, particulièrement depuis la publication par le pape François, justement, de la date aussi. Et comment vous voyez les fruits de cette encyclique, mais d'avoir redécouvert aussi, ou remis en évidence, comment François nous invite à prendre soin, justement, de cette maison commune?
Effectivement. Bien, dans Laudato aussi, on retrouve beaucoup de thème hein, de cette prière de François, la fraternité, être avec l'autre, etc., le respect. Donc, moi, j'ai trouvé que, ben pas juste, je pense, chez les franciscains, mais dans l'Église, Laudato si a eu un impact important. Et à travers le monde même, hein, même ceux qui ne sont pas croyants, ils ont vraiment aimé et vraiment même, je dirais, apprécié ce texte de François. Parce que ça a donné, enfin, je dirais, une assise, pas François d'Assise, mais une assise pour les chrétiens aussi, pour les catholiques, pour dire, mais regardez, on a un texte qui nous amène un peu plus loin dans notre réflexion, puis aussi, non seulement notre réflexion, mais notre action. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans Laudato si, François nous invite à l'action. Il nous invite à réfléchir, oui, à prendre conscience qu'effectivement, on détruit l'environnement, et non seulement on détruit l'environnement, mais on ne tient pas compte non plus des pauvres qui subissent les changements climatiques, tout ce qu'on fait à la nature. Souvent, c'est les pauvres qui en subissent les conséquences. Et ça, c'est pas une occupation comme ça là, du pape ou des militants, c'est des faits concrets. Nous autres, on le sait parce qu'on sait qu'on nous, on aide des frères. Souvent, ils vont aider des gens qui sont, mettons, doivent se déplacer pour... parce que là, oups, tout d'un coup, il pleut plus. Il y a trop de sécheresse. Ils peuvent même pas cultiver. Alors, il y a des effets concrets sur les gens, les changements climatiques. Et le pape nous invite à dire, mais aussi à faire. Il nous dit, ben là, il faut faire des choses concrètes pour changer cette situation-là. Et pour les franciscains, c'est un texte extraordinaire parce qu'effectivement, il s'inspire beaucoup de François d'Assise, mais ça devrait être aussi un texte inspirant pour tous les chrétiens parce que c'est un texte vraiment, pour moi, en tout cas, fondamental. La seule petite chose, personnellement, là, c'est pas, je parle pas au nom des franciscains, là, je parle à mon nom personnel, mais je trouve que François aurait pu parler un petit peu plus de la question des animaux. Quel est notre rapport avec les animaux? Il n'en parle pas beaucoup. Ça, disons que parce qu'il y a aussi des catholiques qui sont impliqués dans la défense des animaux, ils ont trouvé que le texte était un petit peu faible à ce niveau-là. Mais disons que dans l'ensemble, c'est un texte vraiment qui fait l'histoire, moi je trouve en tout cas.
Et peut-être que François d'Assise, c'est un des héritages qu'il nous laisse aussi, oui, de repenser notre rapport aux animaux, de ne pas avoir une vision utilitaire des animaux, mais de les voir aussi comme un don de Dieu.
Oui, tout à fait.
Dans l'héritage de François, qu'est-ce que vous nous avez parlé la semaine dernière de la joie? Vous nous avez parlé de la fraternité, on a parlé du dialogue interreligieux, des missions. Est-ce qu'il y a un autre aspect de l'héritage de François que vous souhaitez nous parler?
Oui, bien, je suis content que vous m'ameniez ce sujet-là, parce que moi, je trouve que souvent, on parle de François et les animaux, hein. Souvent, on découvre, justement... Moi, j'ai découvert François, en tout cas, parce que j'aimais beaucoup les animaux. C'est comme ça que j'ai découvert François d'Assise. Mais disons qu'il ne faut pas non plus voir cette relation, parce que souvent, François a eu... Il parlait de sœur abeille, de sœur araignée. Mais il ne faut pas non plus que ça reste juste une question, disons, romantique. Je pense qu'il faut aussi aller plus loin. C'est pas juste appeler une abeille sœur ou frère un tel, un animal, le frère animal. Ben, faut aller plus loin aussi. Faut pas juste dire, ah ben c'est beau, ah ben c'est bien beau. C'est une belle affaire. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait de concret? Eh bien, je pense que c'est ça aussi que François nous invite à faire. On a parlé tantôt du doute Goubiot. Il y a d'autres aussi initiatives que François a prises. À un moment donné, il a sauvé un âne, il a sauté, etc. C'est que, pourquoi il disait ça? C'est pas pour rien, c'est parce que les animaux sont des créatures de Dieu. Et quand on dit ça, là, on ne devrait pas dire ça de même. Ah, bon, ben oui, alors ça, c'est des... Oui, c'est important. C'est Dieu qui les a créés. Donc, il faut les protéger, il faut les aimer. Et puis ça, moi, je pense que ce que François nous a laissé comme legs, ça devrait nous faire réfléchir beaucoup notre rapport avec toutes les créatures de la Terre. Malheureusement, je trouve qu'on a un rapport souvent très superficiel. Il faut vraiment se développer plus en profondeur cette question-là, parce que souvent, dès le jeune âge, notre relation, puis ça a été prouvé par des études, hein, ça a été prouvé scientifiquement. Quand des jeunes vont être violents envers des animaux quand ils sont jeunes, ils vont être violents plus tard envers les humains. Donc, quand on apprend aux jeunes, dès leur jeune âge, là, à être vraiment des amis des animaux, mais aussi des préoccupés par la question animale, bien, ça va faire des adultes plus tard qui vont être moins violents, qui vont être plus responsables envers même les autres êtres humains. Et ça, ça a été prouvé. Ça a été prouvé. Donc, François nous amène vers ces chemins-là.
Richard Chartier, 800 ans, il nous reste quelques instants. Comment on peut souligner 800 ans du décès de François?
Mais je pense qu'on a parlé de sœur mort. Eh bien, sœur mort, je pense qu'il faut qu'on se dise parce que ça fait partie de la vie. Je pense que François nous invite à réfléchir à cette question-là en disant, ben oui, c'est vrai que c'est pas facile, la mort. Mais en même temps, il faut se dire ben, que nous, comme on est croyants, on sait qu'il va y avoir un après la mort. Hein? Alors, d'aller rencontrer Dieu. Alors ça, je pense que c'est ça qu'il faut garder comme idée aussi.
Et comment allez-vous fêter ces 800 ans? Est-ce qu'il va y avoir des célébrations? Est-ce qu'il y aura moyen de savoir à quel moment, à certains endroits, il va y avoir des choses qui vont se passer, auxquelles on va pouvoir se joindre?
Ça, je pense qu'il faut aller vers, je m'excuse, mais vers Internet pour avoir des informations. Je ne suis pas au courant de toutes les activités, mais sûrement qu'il va en avoir. Il s'agit d'aller s'informer sur le blog, etc. Là, le blog, par exemple, le site des Franciscains du Canada, etc.
Et celui de la revue aussi?
Oui, celui de la revue où on tape « Mission des Franciscains » et on va le trouver immédiatement, il n'y a pas de problème.
Richard Chartier, c'est un plaisir de vous recevoir pour cette seconde émission.
Bien, merci à vous. Merci, ça a été un plaisir pour moi aussi.
L'Office de catéchèse du Québec reçoit le soutien de la Fondation Lucien Labelle pour la réalisation de l'émission. Merci à Yannick Caron pour Radio Galilée et Lisandre Duplé pour Radio VM. Merci à vous de votre présence, de votre écoute. Au micro, Renaud Grégoire, et je vous dis à bientôt.